Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Bien, force est de l'admettre, depuis quelques jours, la fièvre des séries s'est emparée des Québécois, des Québécoises aussi. Et même pour ceux qui sont moins fans des Canadiens de Montréal, je pense que c'est plutôt difficile de rester complètement indifférent. La Fondation des Canadiens pour l'enfance, elle, tente aussi de nous rassembler à sa façon parce qu'elle lançait plus tôt cet hiver sa première campagne d'attachement à la cause qui vise à aider des milliers d'enfants plus démunis à travers le Québec et à les encourager, en fait, à adopter de saines habitudes de vie. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Geneviève Paquette, directrice exécutive de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, sera là pour nous en dire davantage sur cette initiative. Et puis, d'abord, je pense que personne est complètement épargné par la peur d'être jugé, la peur d'échouer, le désir de plaire, le désir de réussir également. L'exigence d'être performant, ça préoccupe tout le monde. C'est extrêmement présent dans notre société et même les enfants sont touchés par ça. De plus en plus d'enfants souffrent de ce que l'on appelle l'anxiété de performance. C'est un thème qui est devenu courant depuis quelque temps. Peut-être même à la mode, j'oserais dire. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Et surtout, c'est quoi les conséquences sur la santé physique et mentale de nos enfants? J'en parle à l'instant avec Nathalie Parent, psychologue et auteure. Nathalie Parent, bonjour.
Bonjour.
L'anxiété, c'est quelque chose, Nathalie, qui est assez fréquent, et pas juste chez les adultes, là, chez les jeunes aussi. Notamment, on évalue qu'entre 7 et 17 des enfants vont connaître un jour un épisode anxieux ou de troubles anxieux. Mais l'anxiété de performance, est-ce que c'est nouveau?
Non, en fait, ça a toujours été quand même, mais on voit une augmentation dans les dernières années. Là, il y en a un peu plus, probablement lié à la société de performance dans laquelle on est. Hein. Veux pas, les enfants baignent et vivent dans un environnement aussi. Quand on voit les parents être là-dedans, ben c'est comme un premier modèle à suivre.
Mm-hmm. Donc, ce que j'entends par là, Nathalie Parent, c'est que ça vient des parents, l'anxiété de performance.
Bien, pas tout à fait, dans le sens qu'il y a quelque chose qui vient de l'enfant inévitablement, mais qui vient aussi de l'environnement dans lequel il baigne. Parce que souvent, quand il y a un enfant qui est anxieux, que ce soit une anxiété de performance ou un autre type d'anxiété, il y a un des deux parents qui démontre les mêmes signes.
Parce que l'anxiété, c'est quelque chose d'un peu héréditaire.
Oui et non, dans le sens que il y a une partie peut-être, oui, d'hérédité, mais il y a aussi l'identification de l'enfant aux parents.
OK, OK.
Oui. Donc, quand il s'identifie aux parents, ben il intériorise ces comportements-là. Par exemple, un parent qui va se dire ou se traiter de différents noms quand il vient de faire une gaffe, par exemple, l'enfant, il voit ça. Alors, lui, si le petit garçon voit le papa faire ça, bien, ça se peut qu'il prenne ce comportement-là pour lui aussi.
Mm-hmm. Et il y a des natures également qui sont plus portées à l'anxiété.
Oui. Oui, définitivement. Il y a des enfants, entre autres, qui sont plus introvertis, qui gardent à l'intérieur d'eux, qui sont moins en contact avec leurs émotions aussi, ou encore des enfants qui sont un peu plus dans l'action aussi, là, ils sont plus portés, ceux qui sont dans l'action, mais qui sont aussi très performants, qui veulent gagner, qui ont de la difficulté à perdre, eux vont davantage être porté à développer de l'anxiété de performance.
Nathalie Parent, aujourd'hui, on a décidé ensemble de parler de l'anxiété de performance, mais vous avez publié un livre aux éditions Midi 30 qui s'intitule « Alex, surmonter l'anxiété à l'adolescence ». Donc, vous êtes une experte de l'anxiété chez les jeunes. Et je veux vous ramener un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y aurait différents types d'anxiété?
Oui, en fait, l'anxiété sociale, l'anxiété de séparation, entre autres, et l'anxiété généralisée, ce sont des différents types d'anxiété qu'on retrouve là, mais qui se précisent davantage là, sur un élément en particulier.
Mais lorsque l'on observe de l'anxiété de performance chez un enfant, est-ce qu'il est, dans ce cas-là, plus porté à avoir d'autres types d'anxiété aussi?
Souvent, il y a une anxiété connexe, oui, qu'on retrouve un peu ailleurs aussi.
Mm-hmm. Ouais. Et l'anxiété de performance, ça se traduit de quelle façon chez l'enfant?
Bien, en fait, l'anxiété, premièrement, le terme anxiété, c'est une peur. C'est un sentiment de peur qui est présent. Puis quand on l'associe à l'anxiété de performance, dans le fond, c'est la peur que l'enfant ou l'adolescent a de ne pas réussir, que ce soit dans une compétition sportive ou à l'école, à l'examen, c'est lié à ça. Donc souvent, on va voir avant l'événement en particulier, des signes d'anxiété. Et on peut le comparer un peu à un enfant ou un adolescent face à une montagne. Plus la montagne lui paraît haute à gravir, plus il se sent petit face à elle, et bien plus l'anxiété va monter.
Mm-hmm. Mais en même temps, cette montagne-là, c'est l'enfant ou le parent ou l'adulte qui la construit.
C'est sa perception à lui.
Oui,
exactement.
C'est ça.
Tout à fait.
Oui. Et parce qu'il a ce désir, si on prend l'exemple d'un examen, parce qu'il a le désir d'être performant, d'être le meilleur, d'obtenir une bonne note, parce que ça devient important pour lui, soit par sa nature ou parce que les parents disent « j'attends de toi tel type de performance ».
Oui, il y a de ça. Il y a l'exigence des parents, mais parfois, les parents ne mettent même pas de pression sur l'enfant pour qu'il réussisse, mais ce sont des parents qui sont très performants et exigeants vers eux-mêmes.
Ouais,
okay. Ils ne mettent pas de la pression sur l'enfant, mais l'enfant, lui, voit ces comportements-là, donc il le fait lui-même.
Ouais, ouais.
Ou encore, tout simplement, ça vient de lui, puis il y a des enfants qui veulent vraiment gagner puis être le meilleur. Et donc, dans ce temps-là, s'il n'a pas confiance en lui de maintenir ce niveau-là de réussite, ben c'est là que l'anxiété embarque.
Et bien sûr, on parle des parents, mais il y a d'autres adultes signifiants autour des enfants. Je pense notamment aux enfants qui pratiquent des compétitions, des sports compétitifs.
Oui, ah oui, tout à fait. Que ce soit les coachs ou même les enseignants, ils ont un rôle vraiment important à jouer. Hein, parce que dans l'anxiété, ce qu'on sait, c'est que c'est la confiance en soi qui est en jeu. Hein. Si j'ai une faible confiance en moi, ben je risque fort de mettre plus de pression puis d'être dans l'anxiété de performance. Alors, si les adultes autour qui sont significatifs, pour ces jeunes-là, si eux mettent de la pression ou encore vont donner des commentaires sur t'aurais pu faire mieux, tu vois, puis tu sais, dans les prestations sportives, il y a beaucoup on met beaucoup l'accent sur les aspects négatifs. Regarde, t'as manqué là. Donc là, on vise à aller mieux, à s'améliorer tout le temps. Mais on pourrait aussi mettre l'accent sur, t'as bien performé, c'est quoi tes bons coups, est-ce que t'es satisfait, est-ce que t'es content de toi?
Oui.
Donc, de le ramener un peu aussi à ce que lui a vécu.
Et j'accroche aussi sur cette espèce d'attitude parentale qu'il pourrait être bien de développer sur la confiance. Au fond, pour contrer l'anxiété de performance, pourquoi ne pas se diriger vers le développement de la confiance de notre enfant?
Exactement, que ce soit la confiance, mais aussi le plaisir. Hein? Les enfants sont fondamentalement dans le plaisir. S'ils jouent, puis qu'ils ont du plaisir, déjà, on vient sécréter des bonnes hormones qui vont diminuer les effets négatifs de l'anxiété. Et ça va améliorer à long terme là, ça, ces aspects-là. Donc, chez les adolescents, c'est la même chose. Si on est dans le plaisir, si on arrive à rire, avoir du plaisir, c'est un élément aussi fondamental, autant que la confiance.
Bien sûr, ça a des impacts, cette anxiété de performance-là, sur la santé mentale, oui, sur la santé physique aussi, Nathalie Parent.
Oui. Bien, en fait, au niveau de la santé physique et mentale, c'est sûr qu'un enfant qui présente des signes d'anxiété de performance puis qui dort moins bien, ses nuits sont écourtées, c'est sûr qu'à long terme, il y a une fatigue qui s'installe, il est plus à risque de développer des problèmes physiques, là, de développer aussi des problèmes, comme on disait, d'autres anxiétés, mais aussi une dépression qui peut s'installer. Il peut y avoir aussi des phobies qui s'installent ou de l'isolement. Le jeune peut être porté à s'isoler ou encore avoir des comportements davantage de fuite, soit dans l'alcool, la drogue, les jeux excessifs. Ça peut avoir des conséquences comme celle-là.
Nathalie, est-ce que, ou c'est peut-être un préjugé de ma part, est-ce que l'anxiété de performance est souvent liée aux troubles alimentaires?
En fait, c'est pas nécessairement lié, mais on rencontre quand même souvent de l'anxiété chez les gens qui ont des troubles alimentaires.
OK. Ouais. Je reviens encore aux impacts parce que j'ai envie de me mettre un peu dans la peau des parents qui nous écoutent, des signes qui pourraient être extrêmement révélateurs que notre enfant vit avec de l'anxiété de performance.
Bien, c'est sûr qu'avant, avant d'avoir la veille d'un contrôle ou encore d'une performance sportive ou autre, s'il présente des troubles de sommeil, qu'il se met à avoir des tics, il y a des adolescents ou des enfants qui arrivent à dire qu'ils ont peur, qu'ils sont stressés. Bon, ça c'est bien, ça, on le voit, on le nomme, c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui vont avoir les signes qu'on voit souvent, c'est beaucoup au niveau du sommeil, mais aussi des maux de cœur, de mal de ventre. Il y en a qui vont même jusqu'à vomir, les boules dans l'estomac. Ça, on entend ça souvent. Ah, j'ai une boule dans la gorge ou une boule dans l'estomac. Des fois, il y en a qui vont avoir beaucoup de transpiration, des bouffées de chaleur, avoir le besoin fréquent d'aller à la toilette, là, que ce soit des problèmes au niveau de la diarrhée. Ou encore, il y en a qui peuvent aussi compenser là, dans la nourriture, se mettre à manger beaucoup. Ou encore, quand on a mal au cœur, souvent on n'a pas faim. Donc,
c'est soit un ou l'autre.
Exactement.
Oui. Comment on peut aider notre enfant, notre adolescent à exprimer son stress, son anxiété?
Bien, c'est sûr que quand on le voit, quand on voit les signes, qu'il, lui nous parle de ça, de son malaise, bien déjà, on peut émettre l'hypothèse comme parent de dire est-ce que ça se peut que c'est ce qui s'en vient demain qui te stresse ou ce qui arrive dans quelques temps, là, t'es stressé, t'as peur, est-ce que ça se peut? Quand ils sont jeunes, ça vaut la peine de le nommer parce qu'ils ont de la difficulté, justement. Là, plus ils sont jeunes, moins ils ont les mots pour le dire. Puis à l'adolescence, ben souvent ils sont comme plus fermés. Là, les adolescents, ils vont réagir, mais de leur lancer ces pistes-là, de dire je constate là, ça fait quelques fois qu'avant de faire ton examen, t'as mal au ventre. Ça te dit quelque chose, hein? Puis on essaie de le faire nommer par lui. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait que tu aies mal au cœur à cause que tu es stressé, parce que tu as peur de pas réussir. Qu'est-ce qui te vient autour de ça? Comment tu vois là, ta compétition? Comment tu vois ce qui s'en vient dans ton contrôle, par exemple?
Et j'imagine de ramener au plaisir celui dont vous parliez tout à l'heure.
Définitivement, oui.
Oui.
Ah oui, de ramener l'idée que, ben pourquoi tu le fais? Hein? C'est sûr que quand on va faire un contrôle à l'école, rarement on va le faire pour le plaisir, mais on sait que c'est un passage obligé. On n'a pas le choix. Puis on sait aussi que ça en prend un peu de stress, un peu d'anxiété, parce que ça nous met en alerte. Hein? L'anxiété, ça vient sécréter des hormones qui vont nous mettre en état de bien se préparer, de mieux étudier. Mais c'est sûr que si le jeune en fait trop, là, il devient plus performant du tout.
Et si on a l'impression que cette source d'anxiété est engendrée par un autre adulte? On parlait tout à l'heure d'un enseignant ou d'un coach sportif, un entraîneur. Est-ce qu'il peut être bien d'aller discuter avec cet adulte?
Ah oui, définitivement. Ah oui, puis c'est sûr qu'il faut en parler aussi à notre jeune, hein, de dire comment on voit ça, que certaines attitudes, certaines paroles, on n'est pas en accord avec ça.
Mm-hmm.
On a le droit, hein, comme parents, parce qu'il faut aussi transmettre nos valeurs. Et puis, quand on voit que notre enfant va pas bien, ben c'est sûr que faut le nommer, faut le dire à l'enfant qu'est-ce qu'on voit, puis avoir une rencontre avec le coach, mm-hmm. certainement.
Mm-hmm. Est-ce que l'anxiété de performance touche davantage les garçons ou davantage les filles?
En fait, c'est assez partagé. Dans le sens que c'est assez égal. C'est juste que les filles sont peut-être un peu plus habilitées à le dire, hein, à dire quand ils ont peur. C'est mieux vu, disons ça, surtout à l'adolescence, là,
mm-hmm.
Que les ouais, garçons.
Ça, c'est vrai. Mm-hmm. C'est mieux vu pour une fille d'exprimer ses craintes,
ses
son
émotions.
Stress.
Oh,
ben oui.
Ah, exactement. Ah. Alors que les garçons vont vivre aussi de l'anxiété autant que les filles, sauf qu'ils ne manifesteront pas de la même façon.
Mm-hmm.
Ça va être un peu plus masqué.
Mm-hmm.
Donc, on va le retrouver plus, comme je disais tantôt, dans des comportements là, plus de fuite ou de jeux vidéo. Hein? Un enfant ou un ado qui veut passer toute sa journée la veille d'un contrôle sur les jeux vidéo, chose qu'il ne fait pas habituellement, ou encore dans une période de plus d'anxiété, se mettre là-dedans ou d'aller faire du sport en excès, mm-hmm. bien, ça peut nous parler justement de son anxiété.
Au lieu d'étudier, par exemple.
Exactement.
Oui, oui. Mm. Et j'imagine qu'à quelque part, il y a un parcours à faire comme parent, et loin de moi l'idée de mettre cette responsabilité, toutes les responsabilités sur le dos des parents, mais de faire ce propre parcours-là, ces propres questionnements-là, de se dire, est-ce que mon enfant s'identifie à moi? Est-ce que moi-même, je vis de l'anxiété de performance et que j'aurais des petites corrections à faire dans mes attitudes?
Ben ça, c'est super aidant. Quand le parent peut... je vous dirais que les gens que je rencontre en consultation, souvent les parents qui amènent un enfant ou un adolescent, ils vont l'identifier, ils vont le voir rapidement qu'eux aussi,
ouais.
ils ont cette tendance-là. Et puis, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail d'équipe, là, où est-ce qu'on va aider le parent et le jeune à travailler sur son anxiété de performance ou son besoin de performer.
Mm-hmm. Mm. Donc, une pierre deux coups, finalement.
Oui, oui.
Justement, en terminant, je voulais vous amener sur cette question, Nathalie Parent. À quel moment il faut consulter, que ça peut devenir inquiétant ou créer de réels impacts là, sur le développement de notre enfant?
Mais c'est sûr que moi, je dis tout le temps, quand on est inquiet pour notre enfant, comme adulte, comme parent, qu'on s'inquiète, qu'on voit qu'il est pas bien, puis qu'on lui en parle, puis qu'on sent qu'il est ouvert à aller consulter, à aller regarder qu'est-ce qui fait qu'il est pas bien, puis qu'il pourrait être mieux, ben ça, c'est génial. On n'est pas obligé d'attendre que ce soit un trouble sévère ou est-ce que le jeune souffre depuis 6 mois, puis que les symptômes sont intenses, puis que ça prend toute la place. Hein, là, on est vraiment dans le trouble, puis c'est plus long. Donc, quand c'est pris tôt, ben il y a plus de possibilités de résultats à court terme.
Mm-hmm.
Plus c'est long, ben plus on attend, en fait, plus ça risque d'être long.
Et plus le travail est ardu, bien sûr.
Exactement.
Et on peut aussi consulter Alex surmonter l'anxiété à l'adolescence, publié aux mm-hmm. éditions Midi 30. C'est
Tout
le
à
livre
fait.
Dont vous êtes l'auteur, Nathalie Parent. Vous êtes également psychologue. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Geneviève Paquette, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice exécutive de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Et je voulais vous dire, bon, quand j'étais plus jeune, mes frères collectionnaient les paquets de cartes de hockey. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même principe que vous tentez d'adopter, de transmettre avec les lacets tricolores pour la campagne « Attachez-vous à la cause ».
Ben, c'est un peu le principe, en effet, parce qu'on aurait pu choisir de faire des paquets identifiés au nom de certains joueurs, mais on s'est dit que ça pourrait être le fun d'avoir la surprise de voir qui, le nom de quel joueur apparaît dans le paquet, puis après ça, ben, entre amis, procéder à des échanges.
Bien sûr. La Fondation des Canadiens pour l'enfance, ça existe depuis 2000, mais c'est votre première campagne, si j'ai bien compris, de financement de la sorte.
Oui, c'est une première. En fait, la Fondation génère la majorité de ses revenus à travers des événements comme tournois de golf, soirées bénéfices et ou encore grâce à des initiatives qui ont lieu, par exemple, les soirs de match. On fait des loteries moitié-moitié depuis février dernier, mais on faisait des tirages avant ça. Et grâce au soutien de certains donateurs majeurs qui, eux, contribuent via leurs propres initiatives, alors que ce soit Valeurs mobilières des Jardins, Rio Tinto, Elk, Canadian Tire ou Ford, il y en a d'autres. Mm-hmm. Mais l'idée d'aller de l'avant avec une campagne comme celle des lacets, le financement était un point important, mais aussi de créer une familiarité du grand public avec la Fondation des Canadiens, parce que la marque du Canadien est très, très forte, mais vous pouvez demander aux gens sur la rue que fait la Fondation des Canadiens, vous allez avoir différentes réponses.
Oui, tout à fait.
Puis ça peut aller de « Ah, ben ils aident les enfants malades, ils visitent des hôpitaux, ils font des patinoires » ou « Ah, je suis pas trop sûre exactement, je pense qu'ils aident les jeunes joueurs de hockey. » Alors, pour nous, c'était vraiment de positionner la Fondation comme un acteur majeur au niveau du développement des saines habitudes de vie. Et puis, ben, à partir de là, oui, récolter des fonds, mais surtout aussi apprendre à se faire connaître.
Oui. Puis, en même temps, de continuer, et ça, je trouve ça très bien, de continuer à véhiculer des valeurs fortes. Vous le disiez, les Canadiens de Montréal, c'est déjà bien installé au sein des familles québécoises, un peu moins de la Fondation, mais là, en véhiculant des valeurs comme l'entraide, la passion, le respect, et ce, à travers les joueurs qui sont aimés du grand public, c'est un petit peu, vous voulez marquer un peu vos idéaux à vous, à la Fondation.
Bien, tout à fait, parce que encourager les jeunes en milieu défavorisé à développer de saines habitudes de vie, c'est un travail qui est exigeant. Il y a déjà beaucoup d'acteurs dans le milieu qui font du travail remarquable. On peut penser aux différents regroupements communautaires, les écoles, les associations, les maisons de jeunes et tout ça. Et nous, on s'est dit qu'on peut jouer un grand rôle, oui, en récoltant des fonds, en redonnant, en investissant auprès de ces organismes-là et aussi en créant un projet comme notre programme des patinoires, notre programme Bleu, Blanc, Rouge. Mais ce qui va venir chercher beaucoup les jeunes, c'est l'imaginaire, le côté qui fait rêver, le côté espoir qui vient un peu avec nos joueurs de hockey, le fait qu'ils sont adulés. Puis je dis ça bien humblement, mais on le sait, on est témoin du regard des enfants vis-à-vis les joueurs. Et c'est très facile pour nous d'associer des valeurs qui nous sont chères à nos joueurs parce qu'ils sont tous un peu ambassadeurs de saines habitudes de vie. Puis pour eux, l'entraide, c'est naturel. Ce sont des joueurs de hockey, ils travaillent en équipe. Le respect, c'est très important entre coéquipiers, entre équipes, même si des fois ça brasse sur la glace. Mais le respect de l'autre.
La persévérance.
Écoutez, on a des exemples dans l'équipe actuelle de joueurs qui se sont fait dire « Mon Dieu, jamais tu pourras te rendre jusque-là » puis qui ont une très belle carrière dans la Ligue nationale. Alors peut-être que le jeune ne deviendra pas un joueur de la Ligue nationale, mais s'il persévère dans ce qui l'allume, dans ce qui lui le fait vibrer, il a tout autant de chances d'atteindre ses rêves qu'un joueur des Canadiens.
Bien sûr, et dans d'autres secteurs que le sport.
Tout à fait, c'est sûr que nous, on préconise l'activité physique parce qu'on s'est dit, il y a des besoins, on voit les chiffres, on voit les statistiques où il y a une problématique d'obésité, de sédentarité chez les jeunes, et ces statistiques-là sont amplifiées quand tu t'en vas en milieu défavorisé. Alors ça, c'est l'objectif très, très, très concret. Mais avec tout ça, avec l'activité physique, le fait qu'un jeune fasse du sport ou qu'il soit animé régulièrement dans le cadre d'une activité avec un animateur et d'autres confrères, d'autres jeunes, ben, il y a d'autres choses qui se développent. Hein, le développement d'habiletés sociales, bien le sûr. Travail sur l'estime de soi. Et puis ça peut apporter aux jeunes tout plein d'outils pour réussir, peu importe le canal qu'il va choisir, peu importe la passion qui l'anime.
Mm-hmm. Attachez-vous à la course et la vente de lacets qui peuvent, bien sûr, aux couleurs du tricolore, porter sur des patins, sur des chaussures de sport autour du poignet.
Oui.
On les retrouve où, Geneviève Paquette?
Alors, on les retrouve dans toutes les pharmacies Jean Coutu du Québec. Pour les gens qui n'en ont pas dans leur coin, vous pouvez aussi commander sur tricoloresport.ca, qui est la boutique en ligne, si vous voulez. Ou, bien sûr, au Centre Bell, il n'y a aucun problème. Ou au complexe sportif Bell à Brossard. Mais pour les gens partout en région, je pense que la façon la plus simple, c'est de se déplacer dans le Jean Coutu le plus près de chez eux. Sinon, il y a le site Internet attachez-vous-à-la-cause.com qui va vous donner tous les détails de la campagne.
Ça a débuté le 9 février, ça terminera quand?
Bien, écoutez, là, on ne peut pas terminer tant que la saison printanière est en cours. Alors, on encourage les gens à continuer de se procurer les lacets, de les porter fièrement. Si vous allez sur notre page Facebook, vous allez voir qu'à la veille de la première ronde des séries, avec les conjointes des joueurs, on a tressé.
Je vous arrête ici, Geneviève Paquette, le temps file, mais on glissera toutes ces informations-là sur le site du Canal M. Un très bon match à vous, à votre équipe.
Merci.
Ce soir, on souhaite bonne chance aux Canadiens pour les séries.
Excellent. Merci beaucoup.
Au revoir, Geneviève Paquette. Merci d'avoir été là. On se donne une pause le temps de la fin de semaine. Rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.